Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en versus bande-annonce. Family Romance LLC, c'est un film de Werner Herzog avec Ishiwishi et Mahiro Tanimoto. Justin, je t'en prie, le contexte de ce film.
Oui, donc c'est un film où on va suivre donc le patron d'une entreprise donc, qui s'appelle Family Romance LLC, et une entreprise avec une activité assez particulière, c'est-à-dire que c'est une entreprise d'acteurs que les personnes engagent pour combler certains mots du quotidien, certaines situations auxquelles qu'ils peuvent rencontrer, ou des choses de ce type. Et le fil rouge du film, ça va être une des missions du patron de l'entreprise, qui va être engagé par la mère d'une adolescente qui ne connaît pas son père, et donc il va se faire passer pour son père tout au long du film. C'est le fil rouge, on va suivre d'autres activités, d'autres missions du personnage, mais c'est le fil rouge en tout cas où il se fait passer pour son père. Il se rencontre plusieurs fois tout au long du film, et il faut savoir que donc le Family Romance, c'est une entreprise qui existe vraiment au Japon, c'est une réelle activité, et l'acteur principal qu'on suit dans le film, c'est le vrai patron de cette entreprise. Donc on retrouve un côté un peu manipulateur qu'il y a souvent dans certains documentaires de Werner Herzog.
Exactement, c'est ce que je voulais vous relancer. Du coup, une espèce de frontière floue entre fiction et réalité, c'est Herzog.
Déjà, dans le filmage, c'est filmé, je crois, la caméra numérique. Donc, on ne sait pas si on est dans un reportage, si on est dans la fiction. Bon, après, quand on se renseigne, c'est de la fiction, mais c'est inspiré de vraies exhibitions qu'il a pu effectuer auprès de différents protagonistes.
Lila.
Et ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on est sur un sujet avec comme ça des acteurs qui vont se faire passer pour des membres de la famille, pour des amis, etc. Et qui vont jouer avec cette frontière entre la réalité et la fiction, parce que même si fondamentalement ce sont des acteurs, donc ils sont payés pour faire ça, il y a quand même quelque chose de très humain qui passe. Il y a quand même de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance. On le voit dans leur mission. Donc même si on paie pour une prestation, malgré tout, il y a quand même quelque chose de vrai qui passe là-dedans. Et si on y réfléchit, enfin, c'est un peu la même chose qui se passe avec la forme du film, qui a cette illusion de réalité, qui a quelque chose qui touche à quelque chose de réel, même si ça reste de la fiction, ça reste de la mise en scène. Et c'est assez intéressant de regarder à ce regard-là le fond et la forme.
Et puis le film joue pas mal avec ça, c'est-à-dire il y a des moments où l'émotion fonctionne selon les missions qu'il a effectuées, il y en a d'autres où c'est plutôt absurde. Par exemple, il y a des éléments à la fois universels, il y a des éléments qui sont typiquement japonais. Par exemple, et on connaît le côté très soumis des employés japonais par rapport à leur patron, la contrition dès qu'ils sont en faute. Donc à un moment donné, il y a un employé de gare qui va faire appel à l'entreprise pour se faire passer pour l'employé qui a commis l'erreur à sa place. Donc il va se faire pourrir, complètement par le boss à la place de la personne qui l'a engagé. Ça dure 10 minutes où il se fait littéralement pourrir, insulté par le boss. Donc il y a un côté complètement absurde. Il y a d'autres moments assez touchants où il y a une femme qui son rêve c'est d'être une star, en tout cas d'être admirée, d'être photographiée. Donc ils vont engager une dizaine de faux photographes qui vont l'accompagner, qui vont la suivre comme des paparazzis dans la rue et la flasher. Puis elle va être là comme si à la fois elle va poser, en même temps à faire semblant de les fuir. Donc il y a des mots à la fois universels, à la fois très spécifiques, spécifiquement japonais. D'ailleurs, c'est quelque chose de ce côté de réparer des mots intimes avec une sorte de méthodologie. Il y a quelque chose d'un peu incompatible avec ça, et c'est quelque chose de typiquement japonais, ce que j'avais pu conseiller dans un livre que j'avais lu sur un occidental qui est amené à travailler au Japon, qui s'appelle Tokyo Vice, ouais. qui est un journaliste qui va travailler pendant plusieurs années en tant que journaliste au Japon. Et en fait, il y a une histoire comme ça où il doit mener une enquête sur une personne qui a disparu, et il va tomber sur le cadavre de la personne. Et pour savoir que la personne, la façon dont la personne est morte... Ouais. Il va se souvenir, parce qu'au Japon, ils ont des manuels pour tout. Et en fait, la personne, la position qu'elle a pour se suicider, en fait, la position, c'est une position qui existe dans un manuel qui existe au Japon. Comment réussir votre suicide ?
D'accord.
Donc c'est quelque chose d'ancré, c'est-à-dire, ils n'ont pas tout ce qui est psychanalyste et autres, ça passe pas forcément par ça, ils ont des méthodes pratiques ou des méthodes concrètes qui peuvent sembler absurdes à un étranger, donc...
Après, je trouve que cela dit, il y a quand même... D'une part, dans le choix de filmer au Japon... Le sujet... c'est même pas qu'il s'y prête, mais le sujet est japonais, cette entreprise est japonaise. Mais il y a un petit côté quand même, j'ai trouvé... Oh là là, ils sont bizarres, ces Japonais. Parce que quand tu regardes ça, la fameuse anecdote dont tu parlais du chauffeur de train qui a fait une connerie, ça, si on replace dans l'actualité du moment où le film a été fait, pour moi, c'est clairement une référence à un article qu'on a eu tourné où la compagnie ferroviaire japonaise s'était excusée parce qu'un train était parti avec 10 secondes d'avance. Il y a aussi un autre moment comme ça où ils vont dans un hôtel où tous les employés sont des robots. Ça, c'est aussi quelque chose qui était paru dans la presse à peu près à ce moment-là. Donc, on sent qu'il rebondit un peu là-dessus. Je suis un tout petit peu mitigée par rapport à ça parce que ça vient presque casser cette bulle très humaniste, par ailleurs, qui imbibe le film, pour avoir un côté un peu plus, je sais pas, fait divers, du Japon.
Ouais, boutique à curiosité qui est pas, pas un angle.
Bah après, c'est pas non plus hyper gênant, quoi. C'est vrai que ça fait sourire quand tu le vois.
Bah, moi, ça me dérange pas, parce que des fois, les gens, si une entreprise comme ça existe, les gens peuvent avoir autant des demandes vraiment intimes, personnelles, que des demandes absurdes, et ça correspond à des situations qu'on peut rencontrer dans le film. Et il y a un autre moment où il y a une femme qui veut qu'on lui fasse croire qu'elle a gagné à la loterie. Donc il y a quelqu'un qui vient, qui toque à sa porte, qui lui explique que oui, vous avez gagné à la loterie. Ça pourrait être un moment ridicule. Et on voit sa réaction. C'est-à-dire qu'elle veut juste un moment un rayon de soleil dans un moment de sa journée. Ouais. Et la réaction qu'elle a, on pourrait en rire, on pourrait s'en moquer. Finalement, la réaction de la personne fait que ça devient assez touchant. Donc il y a un côté vouloir capturer l'absurde, mais le fait que c'est une entreprise pareille, de toute façon, on a forcément des situations qui sortent de l'ordinaire. Et puis même le fil rouge du film avec cette fille qui rencontre un père qui n'est pas le sien, il y a une relation qui se noue. Il y a ces deux facettes dans cette partie-là du film. D'ailleurs, il y a une relation vraiment père-fils vraiment qu'on ressent dans le rapprochement qui se fait entre les deux personnages. Et d'un autre côté, il y a le côté ridicule. C'est-à-dire, il y a la mère de cette fille qui se prend au jeu. Et à un moment donné, elle a une entrevue elle a plusieurs entrevues avec l'employé où il lui fait des comptes rendus. Donc c'est un peu glauque, il lui fait des comptes rendus complets de tout ce qu'il a pu dire avec sa fille. Et il y a une scène comme ça où à un moment donné, elle se prend au jeu comme si ça pouvait être le vrai beau-père ou son. Et puis elle se met à le draguer, à lui faire des avances un peu lourdes, donc ça donne un moment un peu ridicule. Donc le film joue constamment sur ces deux échelles-là. Quoi.
Ça sera à peu près tout sur Family Romance LLC. Merci beaucoup pour vos interventions.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critiques, analyses, débats, quiz, coups de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.